À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition.
Chansons.
Gastronomie.
Bonjour Annie, bonjour Alain, bonjour Laurent.
Bonjour Jean, bonjour Laurent, bonjour Annie.
Bonjour Annie, ah non.
bonjour Annie.
Bonjour Jean, bonjour Laurent, je ne sais pas, j'en ai peut-être oublié. Voilà, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Voilà, sur Couleur FM 97.1, l'émission de l'INIS.
Alors, à vous l'honneur, comme toujours.
À nous l'honneur.
On ne change pas une équipe qui gagne.
Oui, l'honneur, je ne sais pas si c'est un honneur de parler des problèmes italiens en ce moment. Parce que
on parle de l'Italie.
C'est un bazar pas possible. Le dernier épisode de l'action gouvernementale est récent, montrant que le souci de Berlusconi, du gouvernement actuellement, il ne s'occupe que de ça. C'est
gagner du temps.
De gagner du temps, d'éviter.
Je crois qu'on peut le résumer comme ça.
Ou de
gagner du temps, voilà.
Ou de retarder les procès du président du Conseil qui se sent aux abois et qu'il est. Il a juste la majorité au Parlement quand il y a un vote, etc. Et même son ministre d'économie, Tremonti, qui était un de ses grands fidèles,
oui, maintenant,
commence à se dire que.
Il est un petit peu lassé.
Pour l'économie italienne, tout ça n'est pas bon. Alors, le dernier épisode. C'est le vote à propos du nucléaire. Donc il y a eu le Japon qui a remué. Et vous savez qu'il y a quelques années, l'Italie avait fait un référendum qui avait eu une grosse majorité contre
le
nucléaire. Ce qui avait posé des problèmes. Mais on devait arrêter et cesser de construire des centrales nucléaires. Et puis le gouvernement, il y a quelque temps, avait décidé...
En 2008, en fait.
Oui, au début de son...
Au début de son mandat.
Au début de son mandat.
De son mandat, de son dernier mandat.
Oui, de son dernier
qui
mandat. Espère,
qui espérons sera vraiment le
sera
dernier.
Sera vraiment le dernier. Avait décidé de reprendre...
La construction, effectivement.
La construction du nucléaire. Et puis, il y a le Japon. Et voilà que le gouvernement décide que c'est un risque très grand... le nucléaire, et elle bloque le projet des centrales nucléaires en cherchant d'éviter le référendum qui était prévu pour le 12 juin prochain.
En fait, ils l'ont même fait en deux étapes. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord décidé au niveau du gouvernement de faire un moratoire sur un an.
Oui, voilà.
Et puis après, ben non, maintenant, il n'y aurait même plus de moratoire parce qu'entre-temps, effectivement, il y a eu décision de référendum, enfin, souhait de référendum.
Oui.
Et puis, référendum encore sur le nucléaire.
Oui.
Entre autres, oui. Mais...
Alors, le problème, c'est que le référendum porte sur autre chose.
Voilà.
Il y a eu un référendum sur la loi qui donnait l'empêchement légitime, ce qu'on a appelé l'empêchement légitime, aux responsables du gouvernement, de ne pas se présenter à leur procès. Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Pendant 18 mois.
Ouais. Ils sont très occupés. Hein.
Oui, ils sont très occupés.
Bah, chez nous, ils perdent la mémoire.
Oui, ça, c'est un peu différent. Et donc, le gouvernement a très peur que ce référendum contre l'empêchement légitime donne la majorité à ceux qui ne veulent pas d'empêchement légitime, qui est effectivement une chose inadmissible. Les responsables nationaux pourraient éviter... leur procès.
Parce qu'ils n'ont pas le temps.
Parce qu'ils n'ont pas le temps, pendant 18 mois.
Ouais.
Donc, et le gouvernement essaye donc de faire en sorte que par son vote sur le nucléaire, les référendums du 12 juin n'aient pas le quorum. Parce qu'ils se disaient, sur le nucléaire, les gens, ils sont quand même inquiets.
Ils se déplaceront. Ah
ouais. Ils se déplaceront. Ouais. Donc, il y aura le quorum, puisque les référendums se passent ensemble. On vote deux fois. Il y a même autre chose, je crois, encore en cause.
Oui, sur l'eau, notamment.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'ils proposent les Italiens en remplacement du nucléaire? Parce que c'est sûr que le nucléaire, on sait tous que c'est dangereux. Ce qui vient de se passer au Japon, on le prouve bien. On remplace par quoi?
Eux n'ont pas à le remplacer, puisqu'ils n'en ont pas.
Ils n'en ont pas.
Ils n'en ont pas, donc eux, ils vivent sans nucléaire. Nucléaire. La raison officielle de l'abrogation du projet, c'est de dire que, c'est la version gouvernementale, il faut avoir de nouveaux comptes rendus scientifiques sur le nucléaire par le biais de l'Agence pour la sûreté nucléaire et sur la sécurité de cette technologie, etc. etc.
Oui.
Et voir aussi au niveau européen de ce qui se préparerait à ce niveau-là, c'est-à-dire les pays qui ont déjà le nucléaire, est-ce qu'ils vont le garder, et les autres qui ne l'ont pas, est-ce qu'ils vont y venir. Ceux qui ne l'ont pas, ça m'étonnerait qu'ils viennent.
Non. Mais n'empêche que la vraie question à poser, c'est OK, on est contre le nucléaire, mais quoi à la place?
Si, on va parler
de le gaz de schiste, comme
mais
sont
non,
en train
non,
de
non, non, le gaz de schiste a été arrêté partout.
Tout ce qu'on trouve est pire que on avait déjà remplacé.
Non,
le
il y a les énergies. Ça, c'est une autre discussion.
C'est une question de volonté, tout
mais
simplement.
Mais il y a d'autres politiques possibles. Il y a les énergies renouvelables, il y a. On va pas le faire en un an. Hein. Même les plus hostiles au référendum au nucléaire en France prévoient que pour sortir du nucléaire, il faut entre 20 et 30 ans.
Oui. Ce qui est logique.
Comme il avait fallu sortir du tout pétrole, c'était dans les années 70, oui. Je me rappelle les manifs contre le nucléaire. Bon, après, on est venu au nucléaire.
Oui, mais c'est donc possible, c'est une question de politique.
Oui.
Non, on ne va pas remplacer. En Italie, ça serait le gaz, parce qu'ils ont le gaz sur place.
Oui.
Mais ce n'est pas une énergie forcément idéale, non polluante,
oui,
etc.
C'est ça, donc,
non, c'est possible. C'est un autre débat, mais ce n'est pas ce problème qu'ils se sont posés. Ils se sont posés le problème du référendum parce qu'ils ont peur que pour le référendum, il y ait le quorum. Et donc, les gens votant pour une chose votent aussi pour l'autre. Mmh. Et comme ils sont en Italie, il y a une très forte opposition au nucléaire.
Ah oui, non, mais là, les sondages, les premiers sondages, donneraient largement un non au nucléaire.
Ah oui, bien sûr. Très largement. Quand vous passez en Italie, vous voyez très souvent communes.
Elles sont toujours dénucléarisées. Il y a toujours l'affiche. Oui,
c'est les communes qui avaient décidé. Donc, il y a une grosse opposition. Il y aurait aussi une grosse opposition à l'empêchement légitime. Et donc, ça veut dire que Berlusconi serait au tribunal dès après le référendum, c'est-à-dire au milieu du mois de juin.
Ouais, ouais.
Et ça, ils essayent de l'éviter à tout prix. Donc, ils ont supprimé. Ils espèrent. C'est pas sûr. Parce que le vote ne supprime pas automatiquement le référendum, étant donné qu'il ne donne pas de précision, le vote du gouvernement.
Non, non.
Tandis que le référendum était beaucoup plus précis. C'était une question posée par les Verts, par la gauche, etc. Et ce n'est pas évident que la Cour constitutionnelle décide d'arrêter le référendum. Mais c'est une tentative qu'a fait le gouvernement Berlusconi. Ils ont fait voter cette décision de ne pas donner suite au projet qui avait été relancé de construction.
Les Italiens font beaucoup de référendums, beaucoup plus qu'en France. Ils aiment bien ça.
Ah, mais en Italie, c'est une autre chose. C'est un référendum abrogatif. Le seul référendum qui existe, c'est un référendum abrogatif. Donc, si on dit oui au référendum, ça veut dire qu'on dit non à la loi. Et si on dit non au référendum, ça veut dire qu'on veut garder la loi existante. Mais c'est une demande d'abrogation d'une loi existante.
Avec de réelles conséquences, en fait.
Ah oui, et il y a eu des référendums très, très importants, quoi. Dont celui-ci, sur le nucléaire, c'est vrai que ça a arrêté, chez nous, près de chez nous, ça a arrêté la participation italienne à Crémalville, par exemple, qui était de 33% de la centrale de Crémalville. Et puis, bon, il y a eu des référendums sur, je ne sais pas, celui de 74, par lequel les catholiques de droite, enfin l'Église tout court d'ailleurs, voulaient supprimer la loi qui accordait le divorce.
Ouais, ouais.
Bon, qui a été un échec, parce qu'il y avait eu 57% des Italiens qui avaient dit qu'ils étaient bien d'accord avec la loi sur le divorce. Et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de référendums, et le Parti radical a souvent joué sur cette possibilité qui nécessite 500 000 signatures de citoyens. Donc c'est relativement facile à obtenir, quoi, si on fait une bonne campagne. Alors voilà, on va essayer.
Mais les réactions ne sont pas naïves, ça ne trompe personne, parce que l'Italie des valeurs a organisé une conférence de presse justement autour de cette manipulation, en fait, ça comme ça.
Ça a été dénoncé par.
Bonelli, le président des Verts, parle de peur et de nécessité plus que de conviction dans la décision, bien sûr. Bersani, lui, il est plus parti sur le. Ce que tu posais comme question, c'est-à-dire dire maintenant passons aux énergies renouvelables, portons notre effort là-dessus. Et Tremonti, qui est donc l'ami, mais qui ne l'est de moins en moins de Berlusconi, dit que maintenant l'opportunité, c'est de soutenir les énergies et de financer les énergies alternatives.
Oui.
Donc, il marque sa... Là, je ne pense pas que lui, ce soit seulement un calcul chez Tremonti. Je pense que...
Oui, peu importe.
Enfin, calcul par rapport au fait de justifier l'arrêt du projet.
Mais ce qui est en même temps évident, c'est que c'est un signe d'improvisation gouvernementale. Mmh. On passe d'une position à l'autre en l'espace de quelques mois. Et c'est le texte qui a été voté au gouvernement, apparemment, n'est pas suffisamment précis pour qu'il soit sûr d'éviter le référendum, qui est le 12 juin, en principe. Alors voilà, c'est assez significatif de la situation actuelle. On navigue à vue avec un objectif, c'est de maintenir Berlusconi en place en lui évitant ses procès. C'est tout. C'est ce qui est un objectif politique, disons, un peu limité. Et pas très productif, quoi, et qui ne trompe personne en Italie.
Et quand il sera plus président, enfin aux prochaines élections,
il n'est pas président, il est président du Conseil.
Ces procès continueront de le poursuivre.
Ah ben encore plus là.
Encore plus, oui, mais d'accord.
Bien sûr.
Enfin, on a vu des présidents tout court dont les procès sont reculés sans arrêt, même s'ils sont pleins d'activité.
En France, on n'a pas. Non, le problème, il joue la prescription.
Oui, bien sûr.
Il a à son service une quarantaine d'avocats qui sont très bien payés, donc il a les meilleurs avocats.
Oui, il a de très bons avocats.
Très bons avocats, dont la plupart sont aussi parlementaires, c'est-à-dire qu'ils lui doivent leur siège ils tiennent à le garder. Et donc, il joue la prescription. Il a eu je ne sais combien de condamnations qui n'ont pas été prononcées parce qu'il y avait prescription. Et il joue le procès court. Tous les procès devraient être réglés au bout d'un maximum de 3 ans de procédure. Mmh. Et vu l'état de la magistrature, qui est en nombre insuffisant, etc., en général, les grands procès, qui demandent beaucoup de temps, durent plus. Et donc, il y a prescription. Mmh. Alors, il n'est pas... Il n'y a pas de non-lieu. Il est toujours en situation coupable. Mais il y a prescription, donc on ne peut pas aller plus loin. C'est un scandale pour la démocratie, quoi, qu'un président du Conseil joue cette carte.
Voilà. Alors, tu disais que les Italiens ont toujours été, finalement, contre le nucléaire, même quand ils avaient quelques centrales. Et là, on va écouter une chanson de 1972... Donc presque 40 ans, de Francesco Guccini, qui avait fait une chanson qui s'appelait Il Vecchio e il Bambino. Alors un vieil homme et un enfant se baladent dans un univers un peu désertique. Et le vieil homme dit à l'enfant, essaye d'imaginer comme ces terrains, ces champs étaient auparavant, parce que c'est une terre complètement dénudée où il n'y a plus rien. Et le vieux disait, en regardant au loin, « Imagine que ces champs étaient couverts de blé. Imagine les fruits, imagine les fleurs. Pense aux voix et pense aux couleurs. Sur cette plaine, les arbres poussaient. Tout était vert. La pluie tombait. Et le soleil rythmait les saisons et rythmait le travail de l'homme. » Et cette chanson... beaucoup ont pensé que c'était un petit peu qui voulait parler de la pollution, qui voulait parler de tas de choses liées à l'environnement, on va dire. Ouais. Mais lui était très clair, il dit que c'est une chanson qui est contre l'holocauste nucléaire, alors qu'il soit civil ou militaire d'ailleurs. Voilà, donc on va réécouter cette chanson, qui est une belle chanson, et avec un début un peu inquiétant.
Et qui prend une grande actualité après
absolument,
le Japon.
Quoi. Absolument. Il Vecchio e il Bambino de Francesco Guccini de 1972. Belle chanson. Ouais. Toujours belle chanson. Près de 40 ans après. En fait. Ouais. Et il la chante toujours sur scène.
Il la chante toujours.
On lui la demande toujours, d'ailleurs. D'autres générations, finalement, lui la demandent
bien
toujours.
Bien sûr, bien sûr. Elle est toujours très, très applaudie. Ouais.
Et toujours d'actualité.
Et toujours d'une grande actualité. Ouais. Et oui, c'est sûr. C'est sûr.
Alors, toujours d'actualité, justement.
Bon, oui, une autre manifestation d'actualité qui est significative. À Milan, ont été affichés par une association qui s'appelle Du côté de la démocratie.
En français dans le texte ?
Non. Ah bon. Dalla parte della democrazia. Okay. Je traduisais pour vous, Annie.
Oh, mais Annie. Très
à l'aise. J'ai tout compris la chanson.
Non, je plaisantais. Des affiches qui disent Fuori le bière dalle procure. Or, les brigades rouges en dehors de la magistrature. Et il y en a d'autres qui disent magistrats rouges, injustice pour tous. Donc, ça fait partie d'une grande campagne qu'il y a actuellement contre les magistrats. Qui instruit les procès ? Et il y en a beaucoup actuellement contre des membres du gouvernement. Il y a des gens de la Ligue qui sont arrêtés. Dans plusieurs communes d'Italie, pour corruption, pour compromis avec la mafia, etc. Et puis, il y a les procès pour corruption, pour faux, pour incitation de mineurs à la prostitution, etc. Le procès Mills contre Berlusconi, etc. Donc, comment réagit le président du Conseil ? Entre autres, il mène depuis longtemps, et toute sa majorité avec lui, des attaques très insultantes contre les magistrats, en disant « ils sont incompétents, ils sont fous, ils font des complots contre l'État, ce sont des communistes déguisés », ce qui fait rigoler tout le monde. Mais enfin, en même temps, ce qui fait que ces affiches entrent dans une campagne générale. Or, le responsable de cette association, qui, avec deux autres personnages, était candidat dans la liste du parti de Berlusconi pour les prochaines élections administratives à Milan. Et évidemment, le président de la République a immédiatement réagi par une intervention très très forte, disant que c'était inadmissible, scandaleux, et il a demandé à la justice d'intenter un procès contre les auteurs de ces affiches.
Ils sont bien placés pour intenter un procès, les juges.
Non, c'est le président. Je parle du président de la République.
D'accord.
Le président de la République a demandé.
En France aussi, on dit que les magistrats sont de gauche. Enfin, c'est réputé. Ils sont réputés d'être.
Mais les magistrats italiens. Mais c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai. Les magistrats sont d'abord magistrats en Italie. Il y a deux organisations de magistrats. Il y a le syndicat de la magistrature, un peu comme en France.
En France aussi.
Et puis il y a l'Union démocratique de la magistrature, qui est plutôt à droite. C'est pas vrai de dire. Et puis, et même ils seraient de gauche, c'est pas pour ça qu'ils sont incompétents.
Ils ont un métier, des idées.
Non, mais c'est ça. On laisse entendre, oui, ils sont de gauche, donc ils veulent démolir Berlusconi. Non, ils veulent faire leur travail correctement. Ils veulent appliquer la Constitution. Ils veulent appliquer la loi. Et c'est pas vrai qu'ils soient de gauche. Une des organisations qui réagit le plus fort contre ces attaques à la magistrature, c'est l'UDM, mais c'est l'Union démocratique de la magistrature, qui n'est pas du tout de gauche politiquement. C'est vraiment ça fait partie des clichés qu'on jette dans l'air, et puis qui sont repris. On leur répète, ah oui, ils sont de gauche. Bon, et alors ? Et même s'ils étaient tous de gauche, en quoi est-ce que ça les empêcherait d'être des magistrats compétents ? Qui font leur travail de défense de la loi. Bon.
Vous fâchez pas.
Mais je me fâche, si, parce que ça fait partie d'une campagne qui est très, très forte et très insultante.
Je crois qu'il y a un métier et des idées derrière. Je crois qu'ils ont un métier.
Ils ont un
métier. Quelqu'un qui veut faire correctement son métier.
Et ils le font difficilement, parce qu'ils sont
assez nombreux. Mais pour rejoindre ce que dit Annie, c'est vrai que, même ici, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire passer ça comme... C'est pratique de faire passer ça.
Non, mais c'est pas vrai.
Mais c'est pas vrai. C'est pratique de le faire passer.
J'ai jamais fait de tract pour dire ça, mais je vous dis, c'est souvent qu'on entend dire les magistrats sont les intellectuels de gauche.
Mais bien sûr. Mais qui dit ça, c'est Il Journal et c'est le PDL et c'est ceux qui ont affaire à la justice et que des mafieux disent « Ah non, non, les magistrats ne sont pas honnêtes », évidemment, c'est leur intérêt le plus immédiat de le faire croire que les procès, y compris...
Bah, c'est se dédouaner. Hein.
Les procès contre la mafia, c'est des procès, c'est un complot communiste, et que la mafia n'est pas si méchante que ça, etc., etc. Ça fait partie d'une campagne de droite qui est antidémocratique et dont le président de la République dit très justement qu'elle est inadmissible et qu'elle doit être combattue.
J'aime bien quand il a du punch comme ça, moi.
Non, mais c'est vrai que ce genre de choses, on ne s'en rend pas compte. Et on arrive à reprendre...
Ah, c'est insidieux, oui, de redire toujours...
Ah, mais c'est, c'est l'idée de marteler une idée sans arrêt, c'est la faire vivre, finalement. Et ça, c'est vrai que c'est terrible.
Et oui, magistrat rouge, injustice pour tous. Mmh. Alors, on se le redit, puis ça fait plaisir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les magistrats. Mmh. Tous les gens qui conduisent sans permis, qui n'ont rien à voir avec, avec la vie politique, éventuellement. Mais c'est pareil. Alors, ce personnage-là, ce Roberto Lassini, était candidat, donc, dans le PDL à droite. Et alors, évidemment, ça a fait un scandale énorme. Et c'est l'ancien maire d'une petite commune proche de Milan, ce qui fait que celle qui est candidate pour l'extrême, pour la droite, pour le PDL, comme maire de Milan, Letizia Moratti,
ex-ministre,
a dû faire demander que ce personnage se retire de la candidature. Alors il a commencé par dire non, 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 je ne me retire pas. Je ne vois pas pourquoi les citoyens ne seraient pas libres de voter pour quelqu'un qui est contre les magistrats. Bon, comment un élu peut-il être contre une des trois institutions de la République, contre la justice. Non, mais c'est énorme si on y pense. Et que quand cet élu est président du Conseil, c'est encore plus énorme. Comment le président du Conseil peut-il être crédible en combattant la justice ? C'est extraordinaire.
Mais vous avez d'accord. Vous avez raison. Je suis d'accord avec vous.
Oui, la non, mais je crois
c'est,
que
c'est un pilier de la République.
Alors finalement, Letizia
Moratti. Démocratie, surtout.
Oui, c'est ça. Letizia Moratti, il lui a fait demander de se retirer. Il a commencé par dire non. Je vois pas pourquoi je me retirerai, etc. Et puis finalement, hier, on a annoncé. Que à Milan, où c'est le PDL et la Ligue qui gouvernent depuis je ne sais pas combien d'années, Letizia Moratti avait eu 52% aux dernières élections, et l'alliance Berlusconi avait effleuré la majorité absolue aux dernières politiques, finalement, il s'est retiré. Letizia Moratti avait dit, c'est ou lui ou moi. Ou bien il reste et je me retire, ou bien je reste et il s'en va. Et alors les journalistes disent, mais comment elle a dit qu'elle était incompatible avec lui. Dit, mais comment est-elle incompatible avec Lassini et pas incompatible avec Berlusconi? Ce qui est vrai que c'est une question. Donc voilà un autre incident politique qui est très significatif, une des choses dont le président du Conseil joue pour sauver sa peau, c'est la lutte contre la magistrature. Il se fiche qu'elle soit de droite, de gauche, il se préoccupe qu'elle soit, et qu'elle fasse son travail. Ouais. Et combien de fois a-t-il invité les Italiens à ne pas faire leur travail, d'ailleurs? Combien de fois a-t-il appelé les Italiens à faire du travail noir quand ils n'avaient pas de boulot, etc. On a un président du Conseil qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer d'antidémocratique. Les Italiens continueront-ils à voter pour lui?
Disons que pour le moment, ils ont voté pour lui.
La dernière fois.
La dernière fois. Bon, je pense que c'est la dernière fois, j'espère.
Oui. Bon, alors, on a une jolie chanson, là, pour...
Alors, jolie, je ne sais pas si elle est... Oui. Elle est jolie, la chanson.
Elle est très, très belle.
Bon, oui. Et elle date aussi, de 1979, par un autre grand de la chanson italienne, qui est Francesco De Gregori. Qu'on n'aime pas spécialement, d'ailleurs, M. Berlusconi.
Non.
Et Francesco De Gregori, qui avait fait une chanson « Viva l'Italia ». Bon, ça n'est pas la peine de traduire. Alors, cette chanson, elle retrace un peu l'histoire de l'Italie. Et ses côtés agréables, ses côtés plus noirs. Vive l'Italie libérée, vive l'Italie du café, vive l'Italie qui ne meurt pas, vive l'Italie qui n'a pas peur, l'Italie assassinée par les journaux, l'Italie qui au milieu de la mer, enfin la situation, vive l'Italie tout entière, l'Italie qui travaille, qui désespère, qui est amoureuse, etc., etc. Et à la fin, une référence à l'époque fasciste, à l'époque de résistance contre le fascisme, et il parle aussi de vive l'Italie du 12 décembre. Alors il sous-entend évidemment le 12 décembre 1969, qui était la date de l'attentat de la Piazza Fontana
à Milan,
où une banque, enfin des bombes avaient explosé dans une banque et on avait arrêté tout de suite un anarchiste, pensant ou voulant faire croire que c'était lui l'auteur de l'attentat.
Oui, il était de gauche.
Et il était donc, effectivement
donc c'était un comploteur. Hein.
Et en faisant
référence... On est souvent anarchiste de gauche, on est rarement anarchiste de droite.
Ah si, il y a beaucoup d'anarchistes.
Ah,
il y a un courant anarchiste. Ah oula, oui.
Un autre procès. Bon, alors c'était
enfin, le sens de la chanson, c'est toujours de dire qu'il y a eu des choses très agréables dans ce pays. Il y a eu des événements noirs. Et l'Italie se relève toujours, finalement.
Et résiste toujours.
C'est le sens de sa chanson. Alors là, on va l'entendre, Francesco De Gregori, avec Pino Daniele, qui est un autre chanteur italien dont on a souvent parlé. Et là, même au niveau des chœurs, puisque c'est un arrangement public, Fiorella Mannoia et Ron. Ouais.
Cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura, viva l'Italia. L'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera. L'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. L'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Viva l'Italia.
Viva l'Italia.
La chanson de De Gregori, qui a été souvent, chaque fois qu'on discute de savoir s'il faut changer d'hymne national et s'il faut remplacer le vieux Fratelli d'Italia de 1848. Une des chansons qui est proposée pour remplacer l'hymne italien, c'est Viva l'Italia de Gregori. Alors ça ne marche jamais, on se dit non, non, on garde, on ne remplace pas Fratelli.
On pense aussi à Verdi.
Alors oui,
le chant des esclaves.
Nabucco. Entre parenthèses, le prochain bulletin donnera un site internet où on peut.
À voir.
Qui est absolument à voir, où on peut voir l'intervention de Muti, le grand chef d'orchestre.
À l'Opéra de Rome.
À l'Opéra de Rome, le 17 mars dernier.
Ah oui.
Où.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant.
Très, très impressionnant. Ça. Muti, puisque tu faisais allusion justement au Nabucco, en plein spectacle. Alors au départ, il y avait eu le maire de Rome qui était intervenu pour, chose étonnante, vu son passé, de dire qu'il fallait peut-être arrêter avec les coupes dans le budget de la culture. Et puis après, il y a eu le Nabucco.
Ouais.
Et puis
on arrive au cœur des esclaves.
Voilà, au cœur des esclaves. Et donc je te laisse en raconter la suite. Au moment du bis, en fait. Hein. C'est au moment du
le
bis.
Public a applaudi et a demandé un bis.
Oui. Bah.
Et,
alors,
et au moment de ce bis, Muti a pris la parole. Mais c'est à voir la vidéo parce que c'est très impressionnant.
C'est très impressionnant. Oui.
C'est quand même quelqu'un. Hein.
C'est un des grands maîtres chefs d'orchestre.
C'est un chef d'orchestre qui d'ailleurs est chef d'orchestre debout dans plusieurs pays. Il a été chef d'orchestre nationaux même. Et il dit oui, je suis d'accord parce que au moment du va pensiero, tout le public criait longue vie à l'Italie, etc., etc. Et lui dit moi, je suis d'accord avec vous, longue vie à l'Italie, mais je n'ai plus 30. Je vais vous lire en fait ce qu'il dit, enfin retraduit. Je n'ai plus 30 ans et j'ai vécu ma vie, mais en tant qu'Italien qui a beaucoup parcouru le monde, j'ai honte de ce qui se passe dans mon pays. Donc j'acquiesce à votre demande de bis pour le va pensiero à nouveau. Mais ce n'est pas seulement pour la joie patriotique que je ressens, mais parce que ce soir, alors que je dirigeais le chœur qui chantait « Oh mon pays, beau et perdu », j'ai pensé que si nous continuons ainsi, nous allons tuer la culture sur laquelle l'histoire de l'Italie est bâtie, auquel cas, nous, notre patrie, serait vraiment belle et perdue. Alors là, il y a eu effectivement, comme on s'en doute, un mouvement d'applaudissements sans interruption. Il a continué. Depuis que règne par ici un climat italien très souvent pendant de nombreuses années, Muti a parlé au sourire. Il disait jusqu'à maintenant, on disait, mais c'est un jeu de mots, hein, je pense aussi, parce que Mut veut dire muet. Je voudrais maintenant dire que nous devrions donner du sens à ce chant, comme nous sommes dans notre maison, le théâtre de la capitale, et avec un chœur qui a chanté magnifiquement et qui est accompagné magnifiquement. Si vous voulez bien, je vous propose de vous joindre à nous pour chanter tous ensemble, ce qui à l'opéra se fait quand même jamais.
Quand même pas souvent.
Ce qui est absolument impressionnant, c'est que le chœur des esclaves, c'est-à-dire, était assis pendant l'intervention de Muti, et tout le monde s'est levé. En plus, en habit,
en costume,
et a applaudi à tout rompre le chef d'orchestre. Mais c'est vraiment une vidéo à voir, et on l'a effectivement.
Donc vous l'avez mis
Jean l'a mentionné dans le bulletin.
On l'a signalé dans le bulletin, et qui sort à la fin de la semaine.
Et voir cet air grave de ce chef d'orchestre, c'est très impressionnant, très impressionnant.
Et ce qu'on ne dit pas dans la vidéo, c'est que évidemment Berlusconi
était dans la loge du président de la République,
immobile et momifié parce qu'il venait de se faire bricoler la mâchoire.
Suite à l'incident qu'il
a à l'hôpital. Non, tous les
15
jours. Oui, tous les 15 jours, il va se faire bricoler.
Une fois, il a eu des dents cassées.
Oui. C'est vieux, c'est dommage qu'on ait fait que lui casser une dent, mais il va se faire bricoler les cheveux, la peau, il va se faire retirer la peau. Tous les 15 jours, il passe 3 jours à l'hôpital. Bon, ma foi. Alors, donc, c'est Viva l'Italia qui est de. qui est en discussion actuellement. Je viens de lire un ouvrage qui
s'appelle aussi Viva Italia,
qui vient de sortir.
Je vois.
Oui, voilà, qui est d'un journaliste et écrivain connu, c'est Aldo Cazzullo. Ça s'appelle Viva l'Italia et en sous-titre Risorgimento et résistance, parce que nous devons être fiers de notre nation. Et qui préface ce livre publié par Mondadori, c'est Francesco De Gregori.
Combien d'entendre.
Oui, voilà. Combien d'entendre. Alors, le livre de Cazzullo est justifié par ceci. Il dit « Crier « Vive l'Italie » n'est pas à la mode ». De même que, dit-il, et je pense à ce qu'on disait tout à l'heure, parler du Risorgimento ou de la résistance, c'est pas à la mode. On dit la résistance, c'est de gauche. C'est pas moi qui le dis. Hein. Mais je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. La résistance, c'est de gauche, donc c'est pas sérieux. Or, il dit, est-ce que c'est pas le moment de se souvenir des grands héros de la résistance et des héros populaires? Il commence par Garibaldi, qui a conquis un royaume, mais qui n'a emporté avec lui à Caprera, non pas des tableaux de Caravage et l'or des Bourbons, mais un sac de fèves et un sac de merlan sec. Que diraient les volontaires de la Grande Guerre qui écrivaient à leur mère, qui expliquaient à leur mère, en lui disant adieu, qu'ils allaient mourir pour leur patrie, pour l'Italie. Que dirait le général Perotti? C'est un grand nom de la résistance qu'on a oublié. C'était le chef du Comité de Libération Nationale piémontais, qui avait été condamné à mort par les fascistes de la République, la petite République de Salo, et qui a été torturé, qui a été fusillé, et au moment d'être fusillé, a crié messieurs les officiers, debout, vive l'Italie. Alors, il dit, il faut pas oublier tout ça. On oublie aussi le sang des prêtres comme Don Ferrante Baggiardi, qui a voulu mourir avec ses paroissiens en disant « Je vous accompagne devant le Seigneur ». Les militaires comme le colonel Montezemolo, c'est un nom qui rappelle des choses aujourd'hui, à qui les nazis fascistes arrachèrent les dents et les ongles, mais qui ne donna jamais le nom de ses compagnons. On oublie que les partisans ne furent pas tous des vengeurs sanguinaires, mais furent braqués, torturés, pendus et exposés aux arbres pour terroriser les civils. Et que les vaincus, les garçons de Salò, les Mussoliniens, pendant 20 mois, eurent le couteau du côté du manche et qu'ils s'en servirent. Alors il dit, c'est dommage. Et alors il rappelle tout ça dans son bouquin. Il rappelle tous les épisodes où des gens ont crié « Viva l'Italia » et sont morts pour ça depuis. Et alors, il fait référence à Dante, à Pétrarque, à Piero della Francesca et à Machiavel, à tous ceux qui, depuis des années ou des siècles, criaient « Vive l'Italia ». Vive l'Italie. Alors, c'est un bouquin intéressant. Ce n'est pas la première fois qu'il parle du sujet. Il le connaît très bien. Il est historien. Et effectivement, viva l'Italia. Le problème existe quand même. C'est que viva l'Italia a servi aussi à justifier, par exemple, la grande entreprise coloniale que les Italiens ont entreprise en 1911, c'est le centenaire.
Oui.
Je ne suis pas sûr qu'on va en parler cette année. Celui-là. Mais le gouvernement italien, profitant de la situation de la France au Maroc en particulier, a décidé de conquérir
La Libye, c'est une grande actualité.
Et a envoyé des troupes en Libye, en disant, bon, c'est une guerre qui va durer un mois. C'est les Turcs, à ce moment-là, qui possèdent, c'est l'Empire ottoman, qui possède la Libye. Et on envoie des troupes. Et le problème, c'est que ça sera la guerre coloniale la plus cruelle contre les civils. On massacre des milliers et des milliers de civils. Ou à Benghazi, à Tripoli, on massacre les civils.
Des noms
à tel point que la société... que la société des nations, que tout le monde proteste, que même le Vatican proteste. Et ça dure plus d'un an, jusqu'à ce que les Turcs, qui combattent en même temps que les Libyens, soient obligés de céder. Ils n'ont jamais reconnu la souveraineté de l'Italie, d'ailleurs, mais ils ont abandonné leur souveraineté sur la Libye en 1912. Alors, c'est d'une extrême actualité quand on sait que maintenant, les Libyens retournent
en Italie.
Les Italiens avaient envoyé des colonisateurs, et maintenant, ils se plaignent de recevoir des Libyens. On en dira deux mots tout à l'heure à propos des incidents de Vintimille. Et alors, les Italiens se sont révélés, ont révélé une compréhension de l'Italie qui n'était pas tout à fait celle dont parle Cazzullo. C'est une Italie conquérante, c'est une Italie qui va de l'avant au son du canon, c'est une Italie qui massacre les infidèles. Et c'est bien de massacrer les infidèles parce qu'ils ne sont pas catholiques. Donc on leur sauve la vie en même temps. L'Église à la fois contestait les méthodes trop cruelles contre les civils, mais en même temps, c'est vrai qu'on allait les convertir, il y avait des côtés positifs. Et on va écrire énormément de chansons sur la conquête de Tripoli, et qui va être d'autant plus cruelle qu'elle tente de faire oublier la première entreprise coloniale de l'Italie à la fin du XIXe siècle, qui avait été un échec. Mmh. L'armée italienne avait été battue à plate couture par des sauvages, comme on disait, qui combattaient à cheval, à l'épée, contre les mitrailleuses italiennes, mais qui ont tué des milliers de soldats italiens pour essayer d'empêcher une conquête, la Abyssinie et la Somalie, qui était jugée insupportable par les gens qui habitaient ce pays et qui ne voyaient pas de raison d'être occupés par les Italiens. Alors on va écouter une de ces chansons, Vive l'Italie, Viva l'Italia, c'est son titre, avec le régiment entier. Nous partons, nous sommes soldats, pour la guerre nous sommes appelés, pour servir la patrie et le roi, toujours fier et hardi, en traversant les mers et les montagnes, avec les canons toujours prêts, nous affronterons l'ennemi.
C'est une chanson qui date de quelle année, ça ?
1911, tout de suite. Mmh. Vive l'Italie, terre d'amour, vive Tripoli avec le tricolore, vive la flotte avec le tricolore, vive l'armée, vive le roi. La bataille est finie, je reviens vainqueur, le drapeau tricolore embrassé avec orgueil. Si au contraire le destin me frappe par la mort, je mourrai en criant fort, vive l'Italie, vive le roi. Alors vous allez entendre ça, c'est une chanson d'un certain Malietto, qu'on connaît pas plus que ça, Mattiello plutôt, qu'on connaît pas plus que ça, et elle est chantée, mais c'est un enregistrement de 1911, hein, par une grande chanteuse de variété d'époque, c'était Olimpia Davigni. Les chanteuses napolitaines prenaient des noms français pour passer sur la scène. Thank you.
Elle a le côté.
Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que Vive l'Italie, c'est aussi ça.
Bah, bien sûr.
C'est aussi ça. Il ne faut pas se faire d'illusions sur l'Italie. D'ailleurs, ça exprime très bien la situation actuelle de l'Italie. Il y a beaucoup d'articles sur les 150 ans de l'unité italienne qui soulignent qu'au bout de 150 ans, on a une Italie unifiée, désunie. Et ce qui se passe actuellement, d'un côté, une magistrature, une résistance, une démocratie qui essaye de se mettre en place, et de l'autre, des gens qui sont pas prêts à chanter « Vive l'Italie » d'ailleurs, parce qu'ils s'opposent...
Ils sont antinationalistes.
Ils sont antinationalistes, et ils s'opposent fortement à la célébration de l'unité italienne.
Enfin, ils n'ont pas bien réussi là-dessus, non, visiblement, non, heureusement.
Non, mais ils ont quand même une forte majorité quand il y a des élections en Italie du Nord, et dans certains pays d'Italie du Sud, la Sicile, les pays mafieux, etc. Alors l'Italie, c'est aussi ça. Et c'est ça qui est déconcertant, c'est qu'on ne peut pas dire il y a l'Italie aujourd'hui, les 150 ans. Non, il y a toute une partie de l'Italie, celle qui a été fasciste pendant 20 ans, celle qui, en 48, redevient démocrate chrétienne soumise à une église qui est désorganisatrice, qui à la fois est contente qu'il y ait l'unité de l'Italie, parce qu'un seul peuple, un seul Dieu, hein. Donc un seul Dieu, un seul peuple, mais qui en même temps désorganise l'Italie en combattant l'État, en ne reconnaissant pas l'indépendance de l'Église, de l'Église par rapport à l'État et de l'État par rapport à l'Église, ce qui est la situation actuelle sur laquelle joue Berlusconi. Il essaye à tout prix de conserver l'alliance de l'Église, des institutions catholiques, pour renforcer son pouvoir. Alors l'Italie, c'est aussi ça. Et c'est actuellement, dans cette période de crise qu'on traverse, d'immigration, de mondialisation, qui déconcerte les Italiens, parce que c'est déconcertant, parce que c'est difficile à vivre, parce que ça demande d'inventer de nouvelles formules, de nouvelles énergies, etc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On retombe dans des formes de machisme, par exemple, aussi. Il y a une réaugmentation actuellement de la violence contre les femmes, par exemple, d'antinationalisme, d'antidémocratie, d'anti-juge, d'anti-gauche, et de repli sur soi, comme manifeste la Ligue du Nord. Alors voilà, on pourrait écouter beaucoup de choses sur ce thème, dont il y a eu une chanson célèbre de 1911 aussi, qui s'appelait « À Tripoli ».« Tripoli, beau sol d'amour, que t'arrive doucement ma chanson, que le drapeau tricolore soit sur tes tours au son du canon ». Navigue, ô cuirassier bienveillant et le vent doux de la saison, Tripoli, terre enchantée, sera italienne au chant, au grondement du canon. Alors il y a énormément de chansons de ce genre sur Tripoli. Et Tripoli reste dans la mentalité des Italiens. Ça les marque, les épisodes.
C'est leur empire colonial.
C'est leur ex-empire. Leur ex-empire colonial. Non. Mais ils ont voulu faire comme les autres grandes puissances.
Voilà.
Et Giolitti.
Ah bon.
Alors, par contre, il y a une chanson de Patti Pravo qui est de 1969 et qui s'appelle Tripoli 69.
Encore une, voilà.
Tripoli 69. Et qui est tout autre chose, c'est le chant d'une femme qui est à la maison et son homme est parti à la guerre parce que ce n'est qu'avec la guerre que les hommes se sentent des hommes. Il faut qu'ils aient la guerre. Et elle, quand il y a la guerre, que font les femmes? Elles restent chez elles en pleurant. Et quand il reviendra, peut-être reviendra-t-il blessé. Il faut qu'il sache qu'elle s'occupera de lui et que mais Tripoli sera pour elle la douleur des larmes. Voilà. Tripoli Patti Pravo 1969. C'est une chanson écrite par Paolo Conte.
In casa io e lui, io non mi accorgo di che fuori è inverno ormai. La stanza è tanto calda, non penso mai che oltre la finestra per lui.
Alors, sur fond de Tripoli, je vais vous donner la recette de notre dernier cours de cuisine, puisque nous avons donc des cours de cuisine régulièrement depuis le début de l'année. Et donc, c'est une polenta grillée aux champignons. C'est une recette de Savoie. On l'accepte parce que la Savoie, l'Italie, bon, c'est quand même bien cousine germaine. Pour 6 personnes, vous prenez 200 g de polenta à cuire, hein, pas de la pré-cuite, on n'est pas dans le fast-food, là. 1 demi-litre de lait, 1 demi-litre d'eau avec un bouillon cube, ou summum du luxe si vous avez fait un pot-au-feu la veille, du bouillon de bœuf ou de poule, de l'huile d'olive, une échalote, du sel, du poivre et des herbes, comme vous aimez, sauge, persil, basilic, cerfeuil, enfin ce que vous voulez, et 500 g de champignons. Donc vous faites revenir l'échalote dans l'huile d'olive, et vous ajoutez la polenta. Vous la faites dorer 10 minutes en la remuant bien. Pas brûlée, juste dorée. Quand elle est dorée, vous ajoutez le bouillon chaud. Et quand il a absorbé toute la polenta, vous ajoutez le lait chaud. Donc on commence par le bouillon, ensuite le lait. Vous laissez cuire 20 minutes à une demi-heure sans cesser de remuer tout le temps. Voilà, un peu comme le risotto. Vous ajoutez un petit peu d'eau si elle a trop épaissi. Vous l'étalez au bout d'une demi-heure donc sur une plaque, vous faites une grosse couche de 2-3 cm d'épaisseur et vous laissez refroidir. Le mieux, c'est de la préparer la veille parce que comme ça, vos petites rondelles se découperont mieux. Donc plusieurs heures après ou le lendemain, vous découpez votre polenta en rond, en carré, en losange, enfin comme vous voulez. Vous badigeonnez chaque morceau dessus-dessous avec de l'huile d'olive et vous la faites colorer à la poêle, 3 minutes de chaque côté. Et puis, donc, à ce moment-là, vous ajoutez vos herbes que vous aurez hachées menu, sauge, basilic, cerfeuil, coriandre. Enfin bon, ça, c'est selon les goûts. Pendant que la polenta se dore de chaque côté, vous faites revenir les champignons émincés et évaporés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et vous les servez à côté de vos rondelles de polenta. Ça, c'était la recette traditionnelle de la belle-mère d'Annie Christin qui nous a fait cette polenta. Mais Marie-Danielle Badin, notre hôtesse, a eu une idée, c'est de passer les champignons au mixeur avec un demi-litre de crème fraîche. Ça s'appelle une duxelle. Des légumes comme ça, moulinés dans de la crème, ça s'appelle une duxelle. Et on la nappe sur les rondelles de polenta qui sont bien dorées et c'est excellent. Et ça ressemble beaucoup donc à la polenta assortiment de civet, de daube, enfin voilà, la base d'une bonne sauce. C'est facile à faire et c'est très bon. Et on l'a goûté et on a beaucoup aimé.
Très bien.
Et le mois prochain, c'est Rosetta Conson qui nous fera un gratin d'aubergine à la parmigiana.
Voilà. Au cours de cuisine de l'Inis.
Au cours de cuisine du 3 et du 17 mai.
Très voilà. Bien. Voilà, donc n'oubliez pas le livre de Cazzullo, Viva l'Italia, et tous les problèmes qu'il pose. Et puis, bonsoir à tous.
Rendez-vous
merci
sur
de nous avoir
FM
écoutés.
Le mois prochain.
Et voilà, dans un mois.
Et merci à Laurent pour la technique.
À l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'INIS, le quatrième jeudi de chaque mois, de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition.
Chansons.
Gastronomie.
Thank you.